Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Et Paul commence en disant « Lorsque les temps ont été accomplis ». On peut se poser la question « Qu'est-ce que c'est que le temps pour Dieu ?» Et qu'est-ce que c'est que le temps pour nous, êtres humains ? En tant qu'être humain, on peut dire qu'on est dans le temps. Hein ? Il y a une naissance, on est dans le temps, un instant T. On a un commencement, et puis après on vit une vie dans le présent. Et après, eh bien, il y a un futur qui se déploie, qui est devant nous. Hein. Mais pour Dieu, c'est différent. Il est le maître du temps. Dieu est au-delà du temps humain tel que nous le comprenons. L'éternité, c'est même un attribut de Dieu. Dieu est éternel. Il est éternel. Et on peut dire qu'il est comme en dehors même du temps qu'il a créé. Il voit le futur de la même manière qu'il voit le passé. Pour lui, c'est pareil. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est éternel. Éternel. Quand vous prenez une Bible Louis II, peut-être que vous avez une Bible Louis II, vous avez peut-être remarqué que souvent, il est parlé de Dieu comme l'éternel. On voit l'éternel fit ceci. L'éternel dit. Mais pourquoi ? Pourquoi ce nom de éternel? Parce que derrière ce nom de Dieu, c'est la meilleure traduction que l'on ait trouvée, le traduire par éternel. Et c'est difficile même de le traduire autrement. Pourquoi? Parce que derrière ce nom de l'éternel, eh bien, il y a quatre lettres, hébraïques. Donc, c'est Yod, E, Vav, E. Alors, je ne sais pas, je ne parle pas l'hébreu, je ne sais même pas si je les prononce de la bonne manière. Et en français, on retranscrit cela par Y, H, W, H. Donc Y, H, W, H, ça ne marche pas ? Bon, voilà, tant pis. Je l'avais préparé, mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est quatre consonnes sans voyelle. Mais c'est imprononçable. On ne peut pas le prononcer, en fait. On ne peut pas le prononcer. Imprononçable. Et vous savez, à l'origine, les Hébreux, eh bien, quand ils lisaient la Bible, pour quelqu'un d'autre, c'était très difficile de lire la Bible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait que des consonnes dans tout le texte, et il n'y avait pas de voyelles. Et donc, les Juifs, qui lisaient la parole de Dieu, eh bien, ils mettaient les voyelles au fur et à mesure de leur lecture, ils les introduisaient, et ils lisaient le texte. Et c'est comme ça que, eh bien, on a transmis de siècle en siècle la lecture de la Bible. On transmettait, et puis c'était transmis à la génération suivante, et ainsi de suite. Et puis on gardait, eh bien, le sens de la parole de Dieu. Mais les Juifs étaient très respectueux de la parole de Dieu, et à cause du commandement qui dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. À cause de cela, eh bien, ils ne prononçaient pas les quatre lettres du nom de Dieu, du tétragramme. Ils ne voulaient pas le prononcer, par peur de prendre le nom de l'Éternel en vain. Et chaque fois qu'il y avait ces quatre lettres, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils remplaçaient par Adonai. Adonai, c'est Seigneur dans la Bible. Donc, chaque fois, tétragramme, Adonai. Ils disaient à chaque fois Adonai. Et le nom de Dieu restait le nom que l'on respecte, que l'on vénère, que l'on ne prononce pas. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Je saute un aspect. C'est qu'un peu plus tard, il y a des Juifs, les Massorètes, entre le 5e et le 10e siècle, les Massorètes, ces Juifs, ont voulu rendre la Bible prononçable, lisible. Donc, ils ont conçu tout un système de points qui permettait de lire les voyelles. Donc, il y avait le texte hébreu avec toutes les consonnes, mais il y avait des points par-ci, par-là, qui montraient eh bien, quelles sont les voyelles et comment le lire. Mais quand ils sont arrivés au tétragramme, on ne prononçait pas le tétragramme. Et les Massorètes ne prononçaient pas le tétragramme. Et alors, eh bien, ils ont mis les voyelles d'Adonai. Et on savait que quand on arrivait au nom de Dieu, on disait Adonai. On ne prononçait pas, encore une fois, les quatre lettres. Et malheureusement, un peu plus tard, on a cru à tort qu'il fallait insérer les voyelles d'Adonai dans le tétragramme. On s'est dit, hein, certains se sont dit, ah ben c'est les voyelles là, il faut le lire comme ça. Mais non, non, c'était Adonai. C'était toujours le nom que l'on ne prononce pas, et les Massorètes ne le prononçaient pas. Et c'est comme cela que certains se sont mis à prononcer Jéhovah. Voilà, c'est les voyelles que l'on a fait remonter à l'intérieur du tétragramme. Mais on ne prononçait pas le nom de Dieu, c'était un mystère. C'était un mystère. Et on ne sait pas quelles sont réellement les voyelles. La seule chose que nous savons, c'est que ces quatre consonnes hébraïques viennent de la racine du verbe « être ». En fait, c'est « H-W-H », c'est « E-E-S-T », le verbe « être ». Regardez Exode 3, verset 14. Exode 3, où nous lisons ici, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu est, tout simplement, il est. Il est celui qui est. Son nom, c'est « Je suis ». Pourquoi ? Parce qu'il est de toute éternité, en fait. Pas de commencement, pas de fin, il est. Et lorsqu'un protestant, qui s'appelle Olivetan, s'est mis à traduire pour la première fois la Bible entière en français, eh bien, il est arrivé devant ce nom hein, de Dieu, ce tétragramme, et là, eh bien, il était devant un dilemme. On ne connaît pas les voyelles. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment le traduire ? Et c'est lui qui, pour la première fois, eh bien, dit, je vais le traduire par « éternel ». Puisqu'il est l'éternel, il est de toute éternité. Il existe et il n'a pas de commencement, pas de fin. C'était impossible de savoir quelles étaient les bonnes voyelles. Est-ce que c'est Yehivi, Jéhuvu, Jéhovo, Yahvé, Jéhovah ? On ne sait pas. Alors, eh bien, il a traduit l'éternel. Parce qu'il est éternel. Et en étant en dehors du temps, ayant même créé le temps hein, tel que nous le connaissons, eh bien, c'est lui qui est le maître du temps. Il règne au-dessus du temps. Et il décide de toutes choses. Et il règle le monde comme bon lui semble. Le prophète Daniel a dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est bien, c'est un verset de circonstances en ce moment. Hein. Mais c'est lui. C'est lui qui établit et c'est lui qui renverse s'il en a envie. C'est lui. Les temps sont donc dans sa main, et lui-même, eh bien, il est en dehors du temps, et il regarde le passé comme le futur, comme si tout est déroulé devant ses yeux. Regardez Psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. Oui, voilà, c'est ça. Il est dit « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ne cherchez pas qui a créé Dieu. Hein, les gens, des fois, ils veulent remonter à l'origine, mais qui a créé Dieu ? En fait, il existe depuis toujours et par lui-même, par lui seul, en fait. Il existe, point. Alors, eh bien, on comprend... que le temps de l'homme, c'est rien du tout pour lui. Hein. C'est une poussière, une poussière. Et qu'au temps qu'il a lui-même choisi, eh bien, il a envoyé son fils. Il est intervenu. Galates 4, verset 4, nous lisons, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils. » En fait, quand tout était en place, quand l'humanité était arrivée au siècle choisi d'avance, quand tout était en place socialement, culturellement, politiquement, quand tout était prêt, alors Dieu a envoyé son fils, parce qu'il est le maître du temps. Ensuite, nous pouvons voir que Dieu est plus qu'un homme. Dieu est plus qu'un homme. Qu'est-ce que je veux dire par cela ? En tant qu'homme, en tant que femme, nous sommes des individus, hein, chacun séparé les uns des autres, hein, avec une identité complètement différente. Hein, nous sommes différents. Mais Dieu n'est pas un individu tel qu'on peut le concevoir avec notre intelligence. Dieu est différent. La Bible dit d'abord qu'il est esprit. Et en lisant ce verset, « Dieu a envoyé son Fils », nous pourrions penser que Dieu, un individu comme l'homme, eh bien, aurait envoyé un autre individu, son Fils, Jésus-Christ. Mais c'est très réducteur de penser que Dieu ne serait que cela, un individu. La Bible nous montre que Dieu est bien plus qu'une simple individualité. Regardez Deutéronome 6 et verset 4. Deutéronome 6 et verset 4. Nous lisons « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Peut-être vous connaissez ce verset, ça s'appelle le Shema. Shema. Donc, je vais prononcer de l'hébreu, peut-être je vais me tromper, hein, mais on dit le Shema parce que c'est le début du verset. Et c'est un passage qui est le fondement du judaïsme. Le Shema est prononcé tous les jours par les Juifs. Selon Moïse, eh bien, ils le prononcent le matin et le soir. C'est comme une prière où ils le joignent à leur prière. Et donc, ils disent en hébreu, « Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad ». Remarquez, c'est intéressant parce qu'ils disent « Adonai ».« Shema Yisrael, Adonai Elohenu ». Ne prononce pas le nom de Dieu. « Adonai, Seigneur ». Mais ce qui nous intéresse, c'est le dernier mot, « Echad », que nous traduisons par « seul », « unique hein. ».« Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad ». Donc ce dernier mot, « Echad », « seul », « unique ». Dieu est le seul éternel. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul. Autrement dit, il est un. Et c'est un verset de fondement du monothéisme. Hein. Il est un. Il est unique. Nous, chrétiens, nous ne croyons pas au polythéisme. C'est très clair pour nous. Hein. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu créateur. Un seul. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Mais une fois avoir dit cela, eh bien, il faut se pencher sur ce mot « Echad ». Dire que ce mot parle d'un unique individu, hein, eh bien, c'est tordre la Bible. Parce qu'Echad est plus une unité formée d'une pluralité. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est dans la Genèse, Genèse 2, verset 24, où il est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. » Vous connaissez ce verset, hein ?« Et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Et là, le mot « seul »,« une seule chair », c'est « Echad ». Mais on ne peut pas dire que l'homme et la femme vont former une unité absolue. Hein. Ils ne sont pas, ça y est, plus qu'un seul corps. Hein. Ils ne sont pas non plus qu'une seule personne. Non, non. Et pourtant, ils forment une unité dans le couple. Et Dieu est une unité, il est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu, ça c'est une vérité qui n'est pas négociable. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est clair. Mais dans cette unité, eh bien, il y a une pluralité. Dieu est formé de trois personnes qui n'en forment qu'un. Et ces personnes sont liées entre elles et ne forment qu'un seul Dieu. Pourquoi peut-on affirmer cela ? Parce que quand vous prenez la Bible, eh bien, vous voyez clairement qu'il est parlé de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. C'est écrit, c'est ce qu'affirme la parole de Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, il est formé de trois personnes distinctes. Et pour s'en convaincre, alors on ne va pas lire toute la Bible et tous les versets, c'est impossible, hein, mais simplement comparer un tout petit peu le Père et le Fils. Et quand vous comparez le Père et le Fils, eh bien vous voyez dans les Écritures, ils sont tous les deux le Créateur. Tous les deux, le Créateur. Dieu seul crée. Personne n'est capable de créer à part Dieu. Quand vous voyez nous, par exemple, on dit « Ah, ben, il est le créateur de la roue ». Non, il n'a pas créé. Il a pris des choses qui existaient et puis il a fait avec ces choses qui existaient. Par contre, Dieu, lui, il est créateur. C'est-à-dire, il crée à partir de rien. Il n'y a rien et il crée la chose. Ça s'appelle ex nihilo, hein, comme il l'explique, à partir de rien. Et quand vous lisez la Bible, eh bien, vous voyez que le Père et le Fils créent. Ils sont le Créateur, tous les deux. La Bible affirme aussi qu'ils sont tous les deux le premier et le dernier. C'est très fort. Attends, il y a plusieurs premiers et plusieurs... Non, il n'y a qu'un premier et qu'un dernier. Et le Fils est le premier et le dernier. Le Père est le premier et le dernier. Indifféremment, ils sont tous les deux le premier et le dernier. La Bible affirme aussi qu'ils sont tous les deux le « je suis ». Je suis. Ils s'appellent tous les deux « je suis ». Jésus dit dans le Nouveau Testament en parlant de lui-même « je suis ». Avant qu'Abraham fût, « je suis ». Je suis éternel. Hein? Et quand on prend l'Ancien Testament, on voit que ce nom de Dieu, le tétragramme, il est utilisé indifféremment pour le Père ou le Fils. Par exemple, vous allez lire dans Zacharie un verset qui dit « L'Éternel envoie l'Éternel ». Et c'est le nom de Dieu, deux fois. Donc, l'Éternel, mais c'est la même personne. C'est le Père, c'est le Fils. La Bible affirme que tous les deux sont juges. Ils sont juges et jugeront les hommes. La Bible affirme qu'ils sont tous les deux rois d'Israël. Ils sont le roi d'Israël. Elle dit aussi qu'ils sont tous les deux lumière. Qu'ils sont tous les deux le sauveur. Pourtant, elle dit aussi qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Mais le Père est l'unique sauveur. Le Fils est l'unique sauveur. La Bible dit qu'ils sont tous les deux bergers. L'unique berger. Le bon berger. Et on peut comme ça étudier toute la Bible, aller creuser en profondeur et voir que le Père et le Fils, eh bien, ne forment qu'un, en fait. Ils sont liés entre eux. Et quand il est dit, Galates 4, verset 4, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils », eh bien, c'est comme une action collégiale de la divinité. Ils sont venus nous sauver. Ce n'est pas le Créateur qui envoie une créature, hein, mais c'est Dieu qui s'envoie lui-même dans la personne de son Fils. Alors, eh bien, là, un point d'interrogation, hein, c'est un mystère. On ne peut pas le comprendre. C'est pas possible. Et si on pouvait le comprendre, eh bien, on serait Dieu nous-mêmes. Hein. Comment nous, avec notre petite intelligence, hein, on pourrait comprendre la personne de Dieu, qui il est, en lui-même? Ça nous dépasse. Comment Dieu peut-il être à la fois une unité et en même temps trois personnes qui ne forment qu'un seul Dieu? Voilà, on ne sait pas. Mais Dieu n'est pas un homme. Et on ne peut pas le réduire, le diminuer simplement parce qu'on ne comprend pas. Il est ce qu'il est. On l'accepte tel qu'il est. Et Dieu nous demande simplement de l'accepter par la foi. Dieu ne se prouve pas lui-même. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il ne commence pas à essayer de se défendre lui-même pour se prouver qu'il existe. Non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas. Mais il ne se défend pas lui-même. Hein. C'est comme ça. C'est la vérité. Et vous savez, même les apôtres ont eu du mal à comprendre cette idée que le Père et le Fils ne formaient qu'un. Parce qu'un jour, hein, ils ont dit à Jésus, c'est Philippe qui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père. » Ils voulaient voir Dieu le Père. Et Jésus a répondu « Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père ?» Et les disciples ne comprenaient pas que Jésus et le Père puissent faire un. Comme il s'agissait de deux personnes différentes, eh bien, voir l'un, c'était pas voir l'autre pour eux. Et pourtant, Jésus leur dit, « Mais moi, le Père, nous sommes un. Si vous voyez l'un, vous voyez l'autre. » parce que nous sommes un. Et le Père a envoyé le Fils, Dieu le Fils. Et c'est cela Noël, c'est qu'au temps voulu, Dieu le Père est descendu vers nous dans la personne de son Fils. Le Fils s'est fait homme pour nous. Galates 4, verset 4, on le relit. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. » Et maintenant, j'aimerais vous parler de la sainteté et de la perfection de Dieu. Si par exemple, on demandait à quelqu'un au marché en bas, là, de nous décrire la personne de Dieu. Qu'est-ce qu'est Dieu pour vous? Même quelqu'un qui ne croit pas. Hein, imaginez qu'il y ait un Dieu qui ait fait toutes choses. Comment le voyez-vous? Décrivez-nous Dieu. Imaginez-le. Eh bien, il dirait certainement que il est parfait. Il est saint. Il est pur. Il est forcément aimant. Il est vrai. Il est juste. Honnête. Haïssant le mal. Aimant le bien. Doux, humble, puissant. Voilà un peu comment on imaginerait Dieu. On ne peut pas l'imaginer autrement. S'il y a un Dieu créateur qui a fait toutes choses, alors eh bien c'est comme ça qu'on l'imagine. Mais si vous regardez la vie de Jésus, c'est ce que je viens de vous décrire. Hein. Il était ça. Rien de moins que tout ça. Sa vie était comme cela. Jésus a reflété tous les attributs de la divinité. Et il est descendu du ciel, naître comme un homme, exactement comme nous. Il est né d'une femme, on l'a lu ensemble. La Bible dit que pour que ce soit possible, eh bien il a fallu que le Fils se dépouille de sa forme divine. C'est ce que dit Philippiens chapitre 2. Il s'est dépouillé de sa forme divine. Alors, allez expliquer ce qu'est la forme divine. J'en sais rien, hein. Je ne veux pas rentrer dedans, hein. Mais en tout cas, c'est écrit. Il s'est dépouillé de sa forme divine alors qu'il était égal à Dieu le Père. C'est ce que dit le passage. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. C'est-à-dire, il n'a pas regardé le fait qu'il était à l'égal de son Père dans les cieux en disant, je veux garder cette égalité, je ne descendrai pas pour me dépouiller de ma divinité. Non. Il n'a pas regardé cette égalité comme une proie qu'il voulait garder pour lui-même. Il s'en est dépouillé, et puis il est descendu, et il a pris une morphée, une forme d'homme, en fait. Il a pris une forme humaine. Il est né d'une femme. Comme un simple homme. Un bébé faible et fragile. C'est incroyable. Mais en grandissant, eh bien cet enfant, après devenu jeune homme, était différent du reste de l'humanité. Il n'était pas comme tous les hommes qui étaient autour de lui, comme ses frères même. Pourtant, il était parfaitement homme dans sa chair, hein, avec les mêmes sentiments que nous, la joie, la peur, les pleurs, hein, avec les mêmes fatigues que nous, connaissant même les mêmes tentations que nous, dit la Bible. Pareil, mais il était différent. Sa différence, c'est qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Personne, je crois ici, pourrait dire, moi j'ai jamais péché. À moins qu'il soit vraiment malhonnête, quoi. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché. On le sait, on est tous des pécheurs. Peut-être qu'on n'est pas les pires, mais on n'est pas parfait quand même, hein. Ce qui signifie que, eh bien, on pêche, parfois, et la Bible est très claire au sujet du péché. Elle dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Salaire, ah tiens, c'est un mot d'actualité aujourd'hui. Hein. On parle de salaire en ce moment. Hein. C'est le sujet brûlant de l'actualité. Les Français veulent un meilleur salaire. Ils veulent gagner plus d'argent. Parce que lorsqu'on travaille, c'est normal. On s'attend à recevoir une juste rétribution de son travail. On voudrait un salaire. Mais lorsqu'on pêche, qu'est-ce que l'on est en droit de recevoir? La Bible le dit. Elle dit la mort. Celui qui pêche mérite de recevoir un salaire, et ce salaire, c'est la mort. Pourquoi il y a à peu près 2 personnes qui meurent par seconde dans le monde? Chaque seconde, 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes sont mortes. toutes les secondes, c'est deux personnes qui meurent. Pourquoi ? Pourquoi ? À cause du péché. Simplement à cause du péché. Si le péché n'existait pas, la mort n'existerait pas. Il n'y aurait pas la mort. Mais parce que l'homme pêche, alors, eh bien, Dieu dit, il reçoit son salaire. Il meurt. Mais Jésus, lui, était différent. Dieu, il est saint, il est pur, il est parfait, il est sans péché. Et Jésus, lorsqu'il a vécu sur cette terre, eh bien, il a mené une vie qui était sainte, qui était pure, qui était sans péché. La Bible parle de lui en ces termes. Regardez 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. 1 Pierre 2, et nous lisons, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, il n'a point commis de péché. Il n'a commis aucun péché. Zéro. Il n'a jamais péché. » Regardez le verset suivant, verset 23. « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Et lorsque même on le provoquait, on cherchait à le faire tomber, eh bien il ne péchait pas, il ne rendait pas le coup, jamais, jamais. Et il n'a ainsi jamais péché. Il est né sous la loi, c'est-à-dire sous, entre autres, les 10 commandements, mais sans jamais les transgresser. Aucun. Alors, pas tuer, c'est une évidence. Pas voler, c'est une évidence. Mais pas mentir, pas convoiter, aimer Dieu plus que tout, il n'a jamais transgressé les commandements. Il n'a jamais péché. Alors, eh bien, on arrive à cette question. Mais alors, pourquoi il est mort ? Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus n'a jamais péché. Et il est mort. Pourquoi est-il mort ? Et c'est ce que notre texte de Galates explique. On va relire tout le texte, versets 4, 4 et 5. « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Et c'est ici une quatrième chose que l'on peut apprendre sur la personne de Dieu, c'est qu'il peut faire quelque chose d'inimaginable par amour, parce qu'il aime. Pourquoi Jésus a vécu une vie parfaite pour ensuite mourir comme un coupable ? Eh bien, le verset dit, c'était afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et même si Jésus n'est pas né un 25 décembre, Noël, eh bien, ça vient, la racine, c'est naissance, naître, et c'est une belle occasion de parler de la raison de la venue de Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme, il a quitté son ciel de gloire, il s'est dépouillé et il a pris une vie humaine, une forme humaine. Mais pourquoi il a vécu une vie sainte, parfaite, pour ensuite mourir pour nous, pécheurs ? Eh bien, c'était afin de nous racheter, nous qui sommes encore sous la loi. Nous avons parlé du péché de l'homme, nous avons parlé de la sainteté de Dieu, et ce sont là deux choses qui se rejettent. Le péché et la sainteté ne cohabitent pas. Et ça se repousse. C'est comme les ténèbres et la lumière. Mettez la lumière, les ténèbres fuient. Eh bien, là où il y a la sainteté, le péché fuit. Vous savez, il est dit que Dieu brille d'une lumière que même l'homme ne peut pas regarder. C'est inaccessible. Si nous, en tant que pécheurs, nous étions dans la présence même du Père, on serait consumés à cause du péché. On ne peut pas être en présence de Dieu parce qu'il est saint, trois fois saint, et nous sommes pécheurs. Le péché et la sainteté se repoussent. Ça veut dire que le ciel est fermé aux pécheurs. C'est fermé. Aucun pécheur n'entrera dans la présence de Dieu. Aucun. Et c'est normal, Dieu ne peut pas laisser entrer le pécheur. Je pensais à quelque chose que j'ai vécu quand j'étais enfant. J'avais peut-être 10, 12 ans, je ne sais plus. J'avais un bon copain en face de chez moi. Et un jour, on lui a offert un ballon de rugby. Et on s'est dit, oh, on va faire un rugby. Bon, j'habitais dans le nord, à Lille. C'est pas le stéréotype, mais il pleuvait ce jour-là. Et juste à côté de chez moi, il y avait un terrain vague. Et on s'est dit, allez, on va faire un rugby. Donc, on a fait un rugby pendant 2 heures. Et je suis rentré chez moi, mais dans un état, vous ne pouvez même pas imaginer. Je n'étais que boue, hein, que souillure. Alors, je ne me souviens pas trop de la réaction de ma mère. Si elle a crié, ou j'en sais rien, je ne me souviens plus. Mais imaginez une mère qui lave soigneusement sa maison, hein, et puis celui qu'elle aime arrive à la porte, hein, et il n'est que boue. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va lui dire, bah, rentre, vas-y, dans son état? Elle ne veut pas le laisser dehors, elle l'aime, mais en même temps, elle ne veut pas souiller sa maison, ça c'est une évidence. Et je pense que j'ai dû me déshabiller à l'entrée, hein, parce que ce n'était pas acceptable sinon. Eh bien, c'est la même chose pour l'éternité. Nous sommes des pécheurs, nous le savons. On peut dire qu'on a souillé nos vêtements, hein. On est souillé. Et on ne peut pas entrer dans l'éternité. C'est impossible, notre péché nous en empêche. Dieu est saint, il ne l'acceptera pas. Alors on se dit, mais c'est pas grave. J'enlèverai mes vêtements juste avant de rentrer. Ah oui, mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que le péché mérite un châtiment. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu le dit. Dieu a établi le salaire du péché, c'est la mort. Et tout pécheur mérite la mort. Et la mort, ça veut dire être séparé de Dieu pour l'éternité. Mais en même temps, Dieu nous aime. Ça, c'est aussi une vérité. Dieu nous aime et il ne veut pas que nous mourions dans notre péché. Alors, comment faire? Le pécheur doit subir la sanction de son péché. Et c'est là où Dieu intervient et Dieu fait l'inimaginable par amour pour nous. Pourquoi? Parce que, eh bien, il est descendu dans une chair comme la nôtre. Il a vécu une vie innocente et parfaite et lui a subi notre condamnation. Il a payé pour notre tunique sale, celle de notre péché. Il est mort pour nous afin de nous racheter alors qu'on était condamné par la loi divine. Et afin que nous recevions gracieusement comme un don l'adoption. C'est-à-dire que Dieu nous adopte, hein, nous fasse rentrer dans sa demeure et nous prenne comme ses fils et comme ses filles. Dieu a fait l'inimaginable par amour pour nous. Il est venu payer le jugement que méritaient nos péchés. Ça, c'est, voilà, c'est une chose merveilleuse, merveilleuse raison de se réjouir en pensant à la naissance de Jésus. Et simplement, j'aimerais vous résumer, vous conclure. Dieu est le maître du temps. Il est éternel. C'est un Dieu qui est unique, indivisible, mais qui existe pourtant en 3 personnes distinctes. Dieu est aussi saint. Il est sans péché. C'est pourquoi quand il s'est incarné, il a vécu une vie irréprochable, sans péché. Et il a fait l'inimaginable par amour pour nous. Il est mort sur la croix, il est mort pour nous coupables. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est croire. C'est dire, je le crois. Pardonne mes péchés, sauve-moi. Et alors, eh bien, Dieu nous sauve pour l'éternité. Je vais laisser